mais bien le voyage. Pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux? En ce moment, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS7 Crossback E-Tense hybride rechargeable d'occasion à partir de 390€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RTL.
RTL 15h. Les trois infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Alexandre de Saint-Aignan, bonjour.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous.
Direction l'Est de Londres, où un garçon de 13 ans a été tué en pleine rue dans une attaque au sabre.
Un homme s'en est pris à des passants ce matin. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RTL dans la capitale britannique. En plus de l'adolescent tué à coups de sabre, 4 autres personnes ont été blessées. L'auteur présumé a été interpellé.
Oui, c'était ce matin, un homme est entré en collision avec une voiture avec son van. Quand un voisin est venu voir comment allait le conducteur, et bien ce dernier l'a poignardé. Ensuite, hors du véhicule, l'individu s'est attaqué à plusieurs personnes. Des passants ont essayé de l'arrêter. Un au moins a été blessé ce faisant, selon des témoins. Ce sont deux policiers qui étaient dans les parages qui ont utilisé le taser pour finalement stopper l'individu. L'attaque aura duré 20 minutes. 5 personnes ont été blessées et amenées à l'hôpital, dont cet adolescent de 13 ans qui est décédé des suites de ses blessures. Deux membres du public sont blessés aussi, mais leur vie n'est pas en danger, ainsi que deux policiers, mais qui, eux, ont dû être opérés. Cette attaque, selon la police, n'était pas ciblée. Elle n'est pas non plus considérée comme par la police terroriste. Et la police dit qu'elle ne recherche personne d'autre en connexion avec cette attaque.
Merci pour ces dernières informations. Marie Billon, en direct d'Angleterre pour RTL.
4 semaines après l'agression de Samara à Montpellier, l'enquête administrative conclut qu'il n'y a eu ni manquement ni harcèlement.
Ouais, la jeune fille de 13 ans avait été violemment tabassée près de son collège, au point d'être plongée dans le coma. Des conclusions d'une enquête administrative contestée par l'avocate de la mère de Samara. Elle répète que l'adolescente faisait l'objet d'un harcèlement.
À Paris, après Rima Hassan ce matin, c'est au tour de la chef des députés insoumis, Mathilde Panot, d'être entendue par la police cet après-midi.
Les deux femmes ont été convoquées dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Rima Hassan, la militante franco-palestinienne, candidate LFI aux élections européennes, a été auditionnée pendant 2 heures ce matin. Ça s'est très bien passé, a-t-elle déclaré. Elle était interrogée sur des propos qu'elle a tenus lors d'une interview. À la question « Est-ce que le Hamas mène une action légitime ?», elle avait répondu « Vrai ». Rima Hassan se défend en évoquant un extrait coupé et trompeur de sa réponse, en précisant que les enquêteurs avaient pu, eux, visualiser l'intégralité de l'entretien. Le Hamas n'a toujours pas donné des réponses à cette heure-ci à la proposition de trêve formulée par Israël. L'État hébreu précise attendre une réponse d'ici demain soir. En parallèle, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou annonce que son armée entrera dans Rafah avec ou sans accord de trêve pour y éliminer, je cite, les bataillons du Hamas afin d'obtenir une victoire totale.
La météo demain.
Pour profiter de l'été, Batiman, spécialiste de la protection solaire, installe chez vous store pergola brise-soleil sur mesure et motorisé.
Et le ciel va rester bien gris à nouveau sur l'ensemble du pays avec des pluies qui s'étendent de la Provence jusqu'au Languedoc, au Massif central et au centre, puis rapidement jusqu'en Normandie. Il n'y a que dans l'extrême nord-est, vers l'Alsace, que le soleil va briller demain. Les températures l'après-midi, 13 degrés à Rennes et à La Rochelle. Il fera 16 à Marseille, 18 à Ajaccio, 20 à Paris, 22 à Lille et 26 à Strasbourg.
Les courses, Alexandre, donnez-nous les bons résultats du quintet.
Oui, c'était tout à l'heure sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est le 3 qui est arrivé en tête devant le 8, le 2, le 11 et le 15.
Merci infiniment, Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve à 16h pour les infos qui comptent.
Avec plaisir,
à tout à l'heure.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Cette complicité induite de façon extraordinaire est parvenue à rendre criminel finalement un médecin qui n'était pas du tout prédestiné à ça, qui n'avait pas du tout les caractéristiques de personnalité pouvant laisser craindre cela. Oui, c'est une histoire qui est digne d'un très grand roman policier.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'assassinat de Jean-Paul Zawadzki en mars 1998 dans le Loiret. L'épouse et son amant, le médecin de famille, ont avoué l'empoisonnement. Nicole Zawadzki s'est rétractée. Selon elle, son amant est seul responsable du drame. Mais dit-elle la vérité ? Surnommés dans les journaux les amants d'Orgères, le médecin et l'épouse se renvoient à la responsabilité du crime. Lors de l'enquête, le médecin dit avoir été comme envoûté par Nicole Zawadzki, laquelle affirmait vivre un calvaire moral, physique et sexuel avec son mari. Le docteur évoque les écrits et les dessins de la petite fille du couple Zawadzki, autant d'appels au secours. Les gendarmes vont toutefois établir que ces dessins étaient directement inspirés ou dictés par la mère. Le médecin raconte encore comment une mystérieuse tante Julie l'appeler d'une voix douce pour lui demander de protéger sa pauvre nièce Nicole. « Il faut que vous l'aidiez. Elle est malheureuse. Elle est en danger », disait la voix. Nicole lui avait confié que cette fameuse tante habitait le village de Saint-Doulchard. Le docteur avait tenté de la rencontrer, mais sans succès et pour cause. La tante Julie n'existait pas. C'est Nicole qui modifiait sa voix pour parler en son nom, même si elle va démentir avoir créé ce personnage. Les enquêteurs ne comptent plus les mensonges compulsifs de Nicole. Elle s'était inventé un jumeau mort à l'âge de 15 ans, se disait propriétaire d'un vaste domaine imaginaire, les Chardonnerets, dont elle aurait hérité. L'épouse avait également confié au docteur qu'elle était violée par son mari, en compagnie parfois de certains de ses collègues militaires. Devant les enquêteurs, elle précise même avoir déposé une plainte pour violence conjugale, avant d'admettre qu'elle n'a jamais alerté le commissariat de Bourges. Les psychiatres décrivent l'épouse comme névrotique, présentant une capacité manipulatrice et calculatrice, froide et utilitaire, selon les experts. Elle affiche une personnalité perverse. Le docteur est lui présenté comme un homme débordé par sa passion, crédule face aux propos mythomaniaques de sa maîtresse. Maître Martine Verdier, avocate de la famille de la victime, les renvoie tous les deux dos à dos. Ils ont été tous deux diaboliques et machiavéliques, affirme-t-elle. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités au téléphone de l'heure du crime, c'est Roland Coutenceau, expert psychiatre auprès des tribunaux, et qui a expertisé ce couple et qui connaît bien ce dossier. Roland Coutenceau, alors effectivement, il y a des mensonges qui sont multiples de cette épouse. Est-ce que c'est, j'ai envie de dire, est-ce que c'est consubstantiel de sa personnalité? C'est-à-dire, est-ce que c'est une menteuse depuis des années et des années, ou bien c'est pour l'occasion, pour convaincre le docteur qu'elle est devenue menteuse?
Alors, je crois qu'il y a un peu des deux. Il y a toujours une potentialité chez certaines personnalités, vous voyez, d'avoir des inexactitudes par rapport au réel, d'utiliser parfois le mensonge utilitaire, un peu dans la dynamique, de quelque chose d'infantile. Mais ici, je dirais sa personnalité. Je vais d'abord utiliser une image qui n'est pas clinique, mais c'est comme une araignée. Elle tisse sa toile un peu pour convaincre son amant qu'elle est victime de violences conjugales. Elle utilise sa fille, vous l'avez très bien expliqué, elle crée un personnage d'une tante, vous voyez un peu, il y a une espèce de créativité, je le mets entre guillemets bien sûr, dans la dynamique du mensonge, pour convaincre un homme intelligent, un médecin, de la réalité de quelque chose qui n'existe pas. Donc effectivement, sa potentialité de mentir, au service d'une stratégie qu'on va voir petit à petit apparaître, mais voyez un peu, il y a quelque chose, c'est vrai, au sens populaire, on dirait un peu diabolique, moi je dirais simplement, il y a une intensité de tisser des éléments pour avoir la conviction de son amant, ce médecin, qu'elle est vraiment victime. C'est le temps 1, je dirais, du basculement du docteur.
Tout à fait, et ça permet effectivement à cette femme de retenir le docteur avec elle, elle l'a sous la main, et puis elle va s'en servir, et les deux vont se servir l'un de l'autre d'ailleurs. Maître Christophe Pesme, vous êtes avocat à Orléans, avocat du docteur Michel T dans cette affaire avec maître Jean-Yves Leborgne. Alors un mot là-dessus, maître Christophe Pesme, parce que lorsque vous avez dû découvrir ça dans le dossier, c'est hallucinant l'histoire de tante Julie.
Totalement.
C'est un personnage inventé, hein.
Oui, mais un personnage clé, bien qu'inventé, un personnage clé de ce dossier. Et je dois dire qu'avec le médecin, dès la première heure de garde à vue, et pendant les trois années qui ont précédé le procès d'assises, on a fait un travail de point par point, de vérification. Et le château de cartes, je dirais, s'est peu à peu écroulé.
Savoir qui a fait quoi, c'est ça?
Savoir qui a fait quoi, et on s'est aperçu que, effectivement, le médecin était enfermé dans une sorte de bulle, un univers non pas virtuel, mais totalement imaginaire, et qui fait qu'il n'avait finalement plus aucune prise avec le réel. Il était totalement coupé du réel, et il a fini par perdre pied.
Et cette tante Julie, tout le monde y croit. D'ailleurs, vous, peut-être
mais
le premier.
Moi-même, j'y crois parce que je connais mon client qui, comme le disait le docteur Coutenceau, est quelqu'un de tout à fait normal.
Simple.
Simple, dans le bon sens du terme. Il a en plus, alors c'est vrai que c'est extraordinaire de sophistication, je dirais, ce mensonge, puisqu'il m'explique qu'il a la tante Julie au téléphone, mais qu'en tant que médecin de campagne, il a ses patients tous les jours au téléphone. Il me dit, mais j'ai une très bonne reconnaissance, quand quelqu'un m'appelle, il n'a pas besoin de dire son nom, je sais qui c'est. Et donc il me certifie que ce n'est pas la même voix, et donc ça ne peut pas être Nicole.
Ça peut pas être Nicole.
Et plus que ça, les détails vont très loin, puisqu'il m'indique qu'une fois, il a la tante Julie au téléphone, et il regarde sur son téléphone, et il y a un autre appel, et l'autre appel, il voit que c'est Nicole qui essaye de l'appeler. Parce que
là, c'est... Oui.
Nicole devait être au téléphone en lui parlant, et avec un second téléphone, elle devait... pour que véritablement il n'y ait plus de doute. Et moi j'avoue que les premiers mois avec le juge d'instruction, peut-être que lui était un peu plus il doutait un peu plus de la réalité de ce fait, mais j'y croyais, je me disais, c'est pas possible à ce point-là. Eh bien non.
Roland Coutenceau, un petit mot, elle va dire Nicole que finalement si elle avait prononcé tous ces mensonges, si elle avait inventé toutes ces choses, c'était parce que c'était surtout pour pas perdre le docteur, elle en avait besoin.
C'est
elle qui le dit, hein, c'est pas moi.
Oui, voilà, j'entends bien. C'est déclaratif. Enfin, vous l'avez vu un peu aussi dans ce véritable polar. Donc, on voit bien quand même que aussi le positionnement des gens dans l'instruction est très important. Assez rapidement, le docteur donc a une position claire, relativement stable, toujours la même, avec une certaine cohérence. Et effectivement, elle alterne, elle se repositionne. Finalement, elle réinterprète, elle donne une explication un peu différente des choses. Et vous l'observez, c'est que toutes ces déclarations sont un peu défensives.
C'est-à-dire
que, alors qu'elle est celle qui a inspiré, on va dire, voilà, après il assumera, on verra un petit peu comment les jurés, mais elle a inspiré finalement le premier basculement de cet homme tout à fait ordinaire. Il se dit, ma compagne, ma nouvelle compagne, est victime de violence conjugale. Et petit à petit, il faut que je la sauve, et puis il en vient finalement à assumer de la sauver en tuant l'autre. Mais, et elle alterne des positionnements, ce qui la fera un petit peu, on veut dire, un peu antipathique peut-être pour les jurés, et on voit bien que chaque fois c'est un plaidoyer pro domo, variable, qui bouge en fonction un peu de ce qu'on lui oppose.
Oui, c'est ça, elle s'adapte aussi, l'épouse. Hein. L'épouse et le médecin de famille vont comparaître aux assises. L'affaire Zavadzki, les mensonges empoisonnés des amants d'orgères. À aucun moment, je n'ai voulu la mort de mon mari, il était le seul homme que j'aimais. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Enfin, au livre de poche, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Inspirée par la figure de sa grand-mère, Ménie Grégoire, célèbre animatrice radio, Adèle Bréau explore un demi-siècle d'évolution de la condition féminine à travers la destinée de quatre héroïnes, des années 60 à nos jours. L'heure des femmes d'Adèle Bréau, une fresque résolument romanesque, au livre de poche.
Dimanche à 12h, retrouvez le grand jury spécial élections européennes.
C'est le premier débat entre les 7 têtes de liste aux élections européennes, programme contre programme, argument contre argument. Pour qui allez-vous voter? 2 heures d'émission pour vous faire une opinion en direct sur RTL et Paris Première, en partenariat avec M6, Le Figaro et LCP, la chaîne parlementaire.
Le grand jury spécial élections européennes, présenté par Olivier Bost, c'est dimanche entre 12h et 14h sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'assassinat de Jean-Paul Zavadzki en mars 98 près d'Orléans. Ce militaire de carrière, 38 ans, est mort empoisonné à petit feu. Son épouse et l'amant de celle-ci, le médecin de famille, sont jugés 3 ans après les faits. Vendredi 19 juin 2001, Nicole Zavadzki, 43 ans, et Michel T, 49 ans, sont devant la cour d'assises du Loiret à Orléans. Une salle comble scrute les faits et gestes des amants diaboliques d'orgères. La veuve, petite brune vêtue de noir, et le docteur, lunettes carrées, barbe poivre sel, n'ont aucun regard l'un pour l'autre. Ils ne s'adressent plus la parole, bien décidés à ne se faire aucun cadeau. À propos de son époux empoisonné, Nicole Zavadzki, la gorge nouée, indique « Il a été mon premier est mon seul amour. Elle raconte qu'en 1990, pendant la guerre du Golfe, et alors que Jean-Paul était en mission, elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est réfugiée dans les bras de Michel, le médecin de famille. Ce dernier évoque cette liaison qui l'a entraînée jusqu'aux assises. « J'ai été manipulée. J'ai fait cela pour elle. La passion m'a fait perdre toute lucidité. Il y a un gouffre aujourd'hui entre les faits que j'ai commis et ma véritable personnalité », explique le docteur. Pendant 3 jours, les ex-amants se renvoient la responsabilité de la tragédie. Le président finit par les confronter l'un à l'autre. Nicole Zavadzki maintient qu'elle ignorait tout de l'empoisonnement. « À aucun moment je n'ai voulu la mort de mon mari. Il était le seul homme que j'aimais », affirme la veuve. C'est elle qui, dit-elle, a été complètement droguée par son amant médecin. Le docteur dément en bloc, il lève les yeux au ciel. L'avocate de la famille de la victime, Martine Verdier, indique « Le major Zavadzki est mort d'avoir trop aimer sa femme et d'avoir fait confiance à son médecin. Son agonie a duré entre 2 et 3 heures. L'avocate ajoute, après l'avoir froidement assassiné, ils ont continué à salir sa mémoire, à détruire sa famille. Comment n'ont-ils pas fléchi pendant presque un mois ? Vous êtes une menteuse constitutionnelle, une totale mythomane, lance l'avocat général à l'épouse. 3 heures de délibéré, verdict. 25 ans de prison pour Nicole Zavadzki, 20 ans pour le médecin. Nicole Zavadzki, qui est la plus lourdement condamnée, maître Christophe Pesme, on vous retrouve dans cette heure du crime, avocat, dans cette affaire du docteur Michel T avec maître Jean-Yves Leborgne. Nicole Zavadzki, plus lourdement condamnée, parce que finalement, on considère, si je traduis ce qu'ont pu penser les jurés, c'est que c'est elle la meneuse et que finalement, on n'a pas cru, on croit aucun de ses mensonges.
Oui, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a tout d'abord le comportement de l'un et de l'autre pendant l'instruction. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, le médecin, lui, n'a de cesse que de vouloir découvrir la vérité. C'est-à-dire qu'il a vraiment des déclarations constantes, il ne se contredit pas, c'est son seul but. Il assume, et il découvre petit à petit l'horreur de son geste. Et le deuxième élément, c'est que effectivement, au travers de l'enquête, mais également des expertises, des enquêtes de personnalité, on s'aperçoit effectivement qu'on n'est pas seulement en présence d'une manipulatrice, mais d'une manipulatrice hors norme. Mmh. C'est tout à fait exceptionnel. Et donc, les deux mêlés, je dirais, les jurés ont compris qu'effectivement, l'un était, si je puis dire, plus responsable que l'autre, ou plus coupable en tout cas.
Roland Coutançon, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes expert psychiatre auprès des tribunaux. Vous connaissez encore une fois bien ce dossier, puisque vous avez examiné les protagonistes dans cette affaire. Le fait que Nicole, à son procès, elle dise « Je l'aimais, mon mari. Je voulais pas le tuer. C'était mon seul amour. » Ça vous surprend, ce genre d'attitude ?
Ben, ça me surprend, oui et non. Donc, en tant que professionnel, on voit que quand il y a plusieurs coacteurs. Souvent, il y en a un qui est relativement clair, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence. Mmh. D'ailleurs, à cet égard, je dirais que l'impression personnelle que j'avais eue d'entretien avec le docteur T, c'est que, en me parlant, en essayant de m'expliquer ce qu'il avait fait, il voulait aussi s'expliquer à lui-même comment il a été venu à faire ça. Donc, intoxiqué, on pourrait dire, par le mensonge concernant la violence conjugale de sa maîtresse, il y a un moment où lui est venue l'idée que, pour la sauver, il fallait tuer cet homme. Et même, il se le demandait lui-même. Comment j'ai pu en arriver là ? Donc, avec une certaine authenticité, on pourrait dire, qui a parlé, en tout cas, dans l'expertise, et peut-être même un petit peu à l'audience. Tandis qu'elle, on voit que elle a des vérités successives. Et finalement, là, elle voudrait suggérer, ben, finalement, moi, j'ai jamais pensé le tuer. C'est mon amant qui, par jalousie, voulait supprimer mon mari, que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous voyez un peu cette espèce de plasticité de vérité successive qui caractérise un peu ce type de personnalité et donc qui a été ce que le jury a ressenti et qui se traduit, comme vous l'avez souligné, par des peines un peu différentes au niveau du quantum de peine.
Oui, c'est ça. 25 ans, je le répète, pour Nicole Zavadzki, 20 ans pour le médecin. Maître Christophe Pesme, c'est le procès, il y a aussi, c'est le procès de l'emprise aussi, cette histoire.
Oui,
on voit quelqu'un qui est
c'est sans doute
plus lui-même.
Voilà, c'est sans doute pour ça que ça a eu aussi ce retentissement, c'est que ça a quelque chose de de très inquiétant pour tout un chacun. C'est-à-dire que quand on décrit ce médecin qui est tout à fait ordinaire, comme je disais, dévoué, plein d'empathie, on se dit si ça lui arrive à lui,
ça peut nous arriver.
Ouais. Et qui plus est, comme c'est un médecin, c'est vrai que c'est inquiétant. Et c'est pour ça que d'ailleurs le procès était très salutaire de ce point de vue-là. L'œuvre de justice, c'est pas uniquement de juger, c'est d'expliquer, de faire la lumière. Et je crois qu'il y a un travail qui a été fait, l'intervention des experts, etc. Ça a permis, en tout cas, de découvrir un peu ce phénomène d'emprise. Et j'ai moi-même fait citer devant la cour d'assises de Tours en appel le docteur Marie-France Hérigoyenne qui a fait un ouvrage sur les pervers narcissiques, le harcèlement moral. Et j'avoue que c'était extrêmement éloquent quand on met les deux. Enfin, il y a vraiment, elle décrit ça de façon très bien. Et je pense que réellement, le docteur a été victime de cette emprise.
Juste un petit mot, lorsqu'il est condamné, 20 ans de prison, qu'est-ce qu'il dit votre client ?
Alors, depuis le début, le docteur, j'allais dire, veut expier. Il est absolument abasourdi. Il prend connaissance d'une part que ce château de cartes s'écroule, n'était que mensonge, il ne reste rien, un champ de ruines. Il découvre en plus que non seulement le major Zawadzki n'était pas le salopard, j'allais dire, que sa femme décrivait, mais plus encore, c'était un type. Donc, si vous voulez, c'est terrible. Et bien évidemment, quand il entend le verdict, sa peine, il l'accepte.
La veuve fait appel, une ultime confrontation aux assises. L'affaire Zawadzki, les mensonges empoisonnés des amants d'orgères. J'ai déraillé, j'ai fait n'importe quoi à cette époque, j'ai honte de moi. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Pinot Noir, un cépage rouge qui n'a pas froid aux yeux.
Ici, en Pays d'Oc, je me refuse à rien. Un apéro, un dîner, un barbecue, je suis toujours partant. Un conseil ? Un petit passage au frais me donne un vrai coup de fouet. Et sans casser mes arômes de fruits rouges.
Pays d'Oc, 58 cépages et une indication géographique protégée à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union Européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Si tu dors mal à cause des stores en panne,
Service Store trouve la pièce qui te dépanne.
2000 pièces made in France ou en Europe.
Moteur de store, volet roulant toujours au top.
Alors pour un sommeil réparateur,
répare tes stores chez un leader.
Connecte-toi sur servicestore.com.
Servicestore.com, choix et qualité, c'est tout comme.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard.
Jusqu'à 15h30 sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, les amants diaboliques d'orgères. L'empoisonnement fatal du militaire Jean-Paul Zawadzki en mars 98 près d'Orléans. Sa veuve et son amant, le médecin de famille, ont été respectivement condamnés à 25 et 20 ans de prison en 2001. Procès en appel l'année suivante. Mardi 26 février 2002, devant la cour d'assises d'appel d'Indre-et-Loire, le docteur Michel T. indique « Je ne suis pas l'instigateur de ce nouveau procès. J'ai conscience de l'atrocité de la faute que j'ai commise. » Nicole Zawadzki, la veuve, indique de son côté « J'ai fait des mensonges, mais là je dis la vérité », affirme-t-elle. Confrontée aux mensonges qu'elle racontait à son amant, médecin, la veuve va finir enfin par avouer qu'elle a déraillé et qu'elle a honte d'elle. 28 ans de prison pour la veuve, 20 ans pour l'amant médecin.
Nicole, qui appelait le médecin en lui demandant de venir à l'aide, il avait le sentiment que tout ce qui était fait à côté, rien n'aboutissait. Et peu à peu, l'étau se resserrait, et il lui apparaissait que la seule solution était de supprimer le mari.
Et on reconnaît bien sûr la voix de maître Jean-Yves Leborgne, avocat au barreau de Paris, qui est avec maître Christophe Pesme, l'avocat du docteur T. C'était un extrait de fait entrer l'accusé. Maître Christophe Pesme, à ce procès en appel, pardon, on a l'impression que la vérité, elle est un peu plus posée sur la table. En tout cas, du côté de Nicole, la veuve, ça va être assez court, hein, mais elle va dire « je me suis trompé, j'ai honte ». Il y a quand même une expression de premier regret.
Oui, a priori, on aurait pu se dire que ce procès était le procès de trop, puisque bon, voilà, chacun avait eu sa peine. Mais en réalité, effectivement, alors pour Nicole qui a pris l'initiative de cet appel, ça a été malheureux puisque la peine a été aggravée. Mais effectivement, pour ce souci de vérité que l'on recherche, ça a été quelque part un peu salutaire puisqu'on a franchi une étape de plus, c'est que elle a reconnu un peu plus l'ampleur de ses mensonges.
La fille du médecin, je crois que c'est à ce procès, sa fille va dire que son père était comme vampirisé. Elle va le témoigner, parce qu'elle l'a vu, l'évolution de son père, qui était plus lui-même, qui était absent, comme une espèce de zombie, on pourrait dire.
Oui, le médecin, effectivement, comme je disais tout à l'heure, a perdu tout repère. Il est effectivement vidé. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Ce n'est plus le médecin que l'on connaissait. Ce n'est plus le mari, le père de ses enfants. Il a perdu tout repère. Et tout le travail au travers de l'instruction et de ces deux procès, ça va être petit à petit de revenir à la réalité et de prendre la mesure du désastre.
Roland Coutanceau, vous êtes expert psychiatre auprès des tribunaux et vous êtes en ligne aujourd'hui avec nous depuis le début de cette émission dans l'heure du crime. Roland Coutanceau, et je vais poser la même question ensuite à Maître Christophe Pesme. Est-ce que vous avez pu, après vos entretiens avec les uns et les autres, savoir pourquoi cet homme, Jean-Paul Zawadzki, avait été tué? Est-ce que vous arrivez à nous l'expliquer?
Alors, finalement, je dirais que le personnage sur lequel on peut s'appuyer, c'est celui du docteur, puisque on voit, je résume, un homme ordinaire, malgré tout déstabilisé par le fait de prendre une maîtresse. Vous voyez, je dirais tout à l'heure, j'ai dit qu'il est dans le spectre de la normale, mais il est banalement névrotique, au sens où beaucoup de mes collègues disent la névrotico-normalité. Donc, il est dans un contexte amoureux. Ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est cette femme lui ferait croire qu'elle est battue. Et vous avez vu un peu la captivité, ce que j'ai pas trouvé d'autre mot, entre guillemets, pour le convaincre avec des destins d'enfants, avec la tante qui... Et puis, là, il y a le basculement, c'est peut-être ce que j'ai moins souligné, que je voulais vous donner mon hypothèse. À un moment donné, cet homme qui aime cette femme, qui est persuadé finalement qu'elle vit une situation atroce, donc finalement la manipulation lui a faussé un peu le jugement, il en vient à penser, peut-être, il l'assume, c'est en ce sens qu'il y a, c'est un peu choquant, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, un médecin qui assume de donner la mort, mais il assume, et je l'ai entendu dans nombre de gens qui s'en sont ensuite, évidemment, fortement repentis, que c'était peut-être la seule solution, finalement, de tuer un peu cet homme, un peu instillé, là aussi, suggéré, distillé comme des, vous voyez, des petites gouttes du poison, peut-être par sa maîtresse.
Effectivement, donc il y a toute cette mécanique que vous décrivez parfaitement, Roland Coutanceau. Maître Christophe Mesme, juste un petit mot, alors là, c'est très très terre à terre. On le tue pourquoi, Jean-Paul Zawadzki? Pour l'argent, pour l'amour, pour le plaisir, je sais pas.
On s'interroge toujours sur le mobile, c'est-à-dire effectivement, non, c'est pas l'argent, c'est pas pour écarter un mari éconduit, puisque il est très souvent absent, et non, du côté du médecin, clairement, c'est la conviction que sa maîtresse subit un véritable calvaire, qu'il est dans les griffes, d'un mari qui la persécute. Et du côté de Nicole, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'argent, puisqu'il y a une assurance vie qui va lui permettre d'acheter une magnifique voiture. Et puis, il y a peut-être ce but de faire tuer son mari par son amant, aussi diabolique que ça puisse paraître. Je crois qu'il y a une certaine logique.
Parce qu'elle peut pas le faire elle-même, c'est ça?
Elle le fait faire par quelqu'un d'autre, oui, c'est presque encore plus tordu, mais je crois que c'est ça le but.
Qu'est-ce qu'il devient, votre client, aujourd'hui?
Alors, j'ai plus de nouvelles de lui depuis un certain temps. Il a vécu, je dirais, son incarcération de façon, on va dire, positive, entre guillemets, mais en tout cas, bon, il a repris des études, il s'est investi, il a fait plusieurs articles sur la santé dans le milieu carcéral, voilà, et ensuite il est sorti de prison et a tenté de refaire un peu sa vie.
Et il a toujours voulu tourner la page, lui, il a payé sa dette.
Oui, il a voulu assumer.
Comme d'ailleurs Nicole, qui a également disparu, on n'a pas plus entendu parler de cette femme, et c'est bien normal, lorsque vous avez payé votre dette à la société, de vouloir en terminer. Elle vous a marqué, cette affaire, Maître Christophe Pesme, parce que c'est un dossier important, on le voit, c'est un dossier à tiroir, qui est compliqué.
C'est un dossier totalement hors norme, et encore une fois, qui nous interpelle tous, on a besoin de connaître, de savoir, d'expliquer, c'est ça. Donc, même des années après, on y repense encore et on essaye d'avancer un peu dans ces explications, cette compréhension.
Merci infiniment Maître Christophe Pesme et Roland Coutenceau d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Marie-Lou Goyet, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort demain au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL. RTL.
Les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Demain, dans la seule émission radio 100% fait divers, l'affaire Georges Pouille, deux petites filles enlevées et tuées à Vorep dans l'Isère. Il a fallu 22 ans pour confondre leur assassin, on en parle demain. Tout de suite, Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL.
Grosse tête de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui vient du pays du tango et qui ne s'empêche jamais d'aller envoyer quelqu'un valser, Marcela Yacoub. Une grosse tête surnommée par le service comptabilité de RTL, l'homme qui valait 300 euros, Paul Elkarat. Bonjour. Une grosse tête à qui j'ai commis l'imprudence un jour de dire « Entre ici, moulin à parole !» Dari Boutboul.
Bonjour.
Une grosse tête en couple avec le chanteur Mika dans The Voice, comme on a pu le voir récemment. C'est pas comme ça qu'elle va être dépucelée. Melra Bédia. Et une grosse tête, commentateur sportif de sa vie amoureuse, qui pourtant, elle, ne l'est pas vraiment sportive, Yoann Rioux.
Bonjour.
Ah, il nous manque une grosse tête. Mais Yoann, vous valez bien deux grosses têtes à vous tout seul.
Par le talent ou par le poids?
Attendez, si c'est par le poids, on vire tout le monde avec Yoann. Hein. Faut même vider le public. Hein, je veux dire.
Pardon d'avoir parlé de votre virginité, mais je me suis permis d'évoquer cet éventuel dépucelage parce que vous-même, vous en aviez fait la promo. Pas la promo, mais en tout cas...
Enfin, Laurent, c'était pas marketing. J'avais quand même un bout d'hymen.
Mais ça continue toujours.
Ça avance ou pas?
Non, mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis une femme frivole.
C'est pas vrai. T'as fait l'amour.
Non, mais ma mère, elle écoute, arrête.
C'est pas vrai. Ça s'est passé comment alors la première fois?
Non, mais attends, elle te donnera des petits cours après.
Je trouve pas que c'est pas évident la première fois. Hein.
Mais tu vois bien qu'on veut pas aller dans cette discussion, Yoann.
Non, moi je préfère vous parler de Mika parce que je vous ai vu dans The Voice il y a plusieurs semaines maintenant.
Oui, je suis co-coach.
Ah, vous êtes co-coach, vous êtes co-coche.
Co-coche.
Co-coche. Mais vocalement, pourtant, en tant que chanteuse, on peut pas dire que ce soit votre truc, je veux dire.
Ça dépend si vous aimez écouter de la merde. Moi,
non, mais vous n'êtes pas vraiment chanteuse.
Non, je suis pas chanteuse, mais je suis intervenue un peu en tant que réalisatrice.
Il vous l'a dit, Mika, d'ailleurs. Il vous a dit que vous n'aviez pas chanté.
Ce grand con. Non, mais c'est vrai qu'il m'a fait. Moi, j'ai cru que j'avais un petit timbre avec cette voix un peu rocailleuse, tout ça. Oui. Et en fait, non.
Donc, tu donnes des conseils à de jeunes chanteurs alors qu'ils y croient?
Oui, mais il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que cet organe-là.
Ah oui, il y a le ventre aussi qui est très important.
Aussi des
non, mais c'est vrai, pour danser, apparemment, il faut.
Ah, ça, pour le ventre, elle est parfaite.
Non, mais... Tu veux que je te fasse une petite danse orientale?
Oui, ah bah, on y va.
Histoire de réconcilier les peuples.
Allez, on y va, c'est parti, on met la musique. Ah bah, je pensais que c'était vrai.
On me signale que Jean-Marie Bigard est arrivé, notre sixième grosse tête. Ouh. Ah ben bravo, hein, monsieur Bigard. Tout Paris Première vous regarde. 60 000 téléspectateurs. On fait tout en direct. Hein. Vous nous écoutez sur RTL, vous nous regardez sur Paris Première et Jean-Marie Bigard s'installe.
Ça, merci, ça merci, bonjour monsieur là.
On avait commencé sans vous. Hein.
Oui, je sais, j'ai vu, mais il y a eu des trucs drôles ou pas?
Écoutez, ça me soulage quand même de vous voir arriver, surtout pour les histoires drôles.
Bien sûr.
Parce que là, je dois dire que compter sur Marcel Ayakou, Paul Elka, Johan Rioux, Darry Boudboul, mais là, bon...
Mais ça veut dire quoi, ça, mais là, bon?
Mais là, bon.
On dirait un EHPAD, vous voyez bien, autour de vous. Heureusement qu'il y a un peu de 109.
Bah, et Paul Elka, vous croyez quoi qu'il est...
C'est un bébé.
Oui, mais compte pas, lui aussi, c'est une minorité visible.
Il est plus jeune que vous, Polo, quand même, je vous signale. C'est notre Benjamin, ah Paul Elka.
Oui, mais les HPI, HPO, tout ça, là.
HPO. HPO.
Ah, c'est vrai que c'est un haut potentiel intellectuel.
EPO, surtout.
Il n'y en a pas 10 000 ici. Alors, une première citation pour Corinne Boisseau, qui habite Saint-Brévin-les-Pins, qui a dit « Nietzsche, ce que j'en pense, c'est qu'il y a bien des lettres inutiles dans son nom. »
Français ?
Un Français, oui.
Philosophe ?
Un philosophe, non.
Une grosse tête ?
Oh, c'est, puisque vous semblez être ici depuis très longtemps, Darry Boudboul, c'est un des auteurs préférés de M. Philippe Bouvard.
Flaubert ?
Non, l'autre. Et vous avez raison, ah bon ? Bouvard aime beaucoup Flaubert, mais pas seulement, un diariste, là, pour le coup.
Mais oh il a écrit quoi ?
Alors, je vais donner les dates.
Bah, un diariste, il y en a beaucoup.
Puis on va s'en débarrasser, hein. Il est mort en 1910, allez-y, Paul.
Jules Renard ?
Voilà. Voilà.
Mais moi, j'avais dit, Renard.
Ah non, on n'a pas dit Renard.
Mais
du Renard.
J'avais dit Renard dès le début.
Vous avez dit quoi?
Renard.
Oui, Renard. Bah oui, alors
c'est bon. Oh, mais ça, c'est quand même de la discrimination.
Non, si vous avez dit Renard, comment non, voulez-vous que j'entende
je
Jules Renard?
Je l'ai dit 5 fois. Je disais Renard, Renard, Renard.
Je croyais que vous parliez à votre chaîne en disant de faire attention.
Mais vous pouvez être témoin.
Non, le public dit non.
Il n'y a aucun témoin. Je vais vous dire,
non, ils sont témoins.
Je vais vous dire, ils n'ont pas parlé depuis le début. C'est pas maintenant qu'ils vont commencer.
Laurent, je crois qu'elle l'a dit.
Elle l'a dit?
Oui,
elle l'a
dit.
Alors, bonne réponse de Marcella Yacoub, si elle a dit Renard. Renard.
Bravo, Marcella.
Je l'ai dit plusieurs fois.
Bon, bah ça va, on a compris maintenant.
Ah non, mais là, c'est un scandale.
pour
Jonathan Chivre, monsieur Chivre, habite Saint-Didier, c'est dans l'Ain, qui a dit « La bêtise des gens consiste à avoir une réponse à tout. La sagesse d'un roman consiste à avoir une question à tout. »
C'est français.
C'est français. Ah, c'est français. C'est quelqu'un qu'on a adopté chez nous en France, mais ça n'était pas français au départ. Mais il est mort à Paris, ça c'est vrai.
Ustinov ?
Et il a même été naturalisé français.
Ah. Ustinov ?
Ustinov, non.
C'est pas Albert Cohen ?
Albert Cohen,
excusez-moi,
non.
C'est quoi la question ?
C'est pas Sandra lui qui a écrit Le Corbeau et le Renard. Non ?
Alors, c'est...
Henri Michaud ?
Les mecs, non. En question. Oui. C'était anglophone ?
Oui. Mais c'est peut-être une femme, tu dis le mec.
Non,
les mecs.
C'est bien un homme qui a été naturalisé français.
Ok, espagnol ?
Ouais. Espagnol. Non.
Italien peut-être.
Italien non plus.
Allemand. Allemand.
Allemand non. On va dire qu'il avait un prénom italien si ça peut vous aider.
Milan Kundera.
Mais comment vous avez trouvé ça?
Mais vous croyez quoi? Mais je suis intelligent, j'ai fait des études, j'ai vécu en Italie, j'ai vécu à Milan. Donc Milan Kundera et c'est la bonne réponse, on applaudit Johan. Mais vous doutez de moi après 50 grosses têtes. Mais
t'as qu'à finir l'émission.
Mais c'est ma 6e année Laurent. Mais
j'ai bien obligé de dire que c'est une excellente réponse de Johan Rioux. Enfin alors.
Mais désolé, excusez-moi, mais Milan, c'est pas un prénom italien, c'est une ville.
C'était un piège dans lequel M. Rioux n'est pas tombé. Et au contraire, ça lui a servi manifestement d'indice.
C'est vrai.
Une autre citation, et cette fois c'est pour Delphine Pradel, qui habite Audin-le-Tiche, en Moselle, qui a dit « À force d'accepter les honneurs, on finit par croire qu'on les mérite.
Oh. » Milan Kundera.
Non.
Ah, Thierry Ardisson.
Non.
Récemment, il a...
Ah, ça, c'est très bien vu. Dommage qu'il puisse plus nous entendre. À force d'accepter les honneurs, on finit par croire qu'on les mérite. Je rappelle la phrase.
Alors, c'est un vieux. Mais il est mort en quelle
année ?
Albert Camus, non. Non, beaucoup plus catholique, alors, là, pour le coup, parce que.
François Mauriac.
Non. Il est minuit, docteur Schweitzer.
Ah, ben, oui. Cesbron.
Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Paul Elkarat.
Les grosses têtes sur RTL, c'est de 15h30 à 18h.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, 1er mai, c'est la fête du travail, mais moi, je vous parlerai d'amour. Car oui, avant la fête du travail, le 1er mai, c'était la fête de l'amour. Mais bon, pas pour toujours.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
Bonjour à tous, c'est Caroline, ravie de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 18h. Les grosses têtes ont fait le pari aujourd'hui encore de vous apprendre des choses en riant. Et pour ce faire, il y a les fameuses questions de Laurent.
Une question pour Francine Lambert. Question de vocabulaire. Mme Lambert habite Abbeville. J'ai des vraies grosses têtes aujourd'hui et j'imagine que vous saurez tous me dire ce qui est à la fois décisif et en forme de croix.
Décisif,
Il y a un jeu de mots.
Merci pour cet essai, madame.
Est-ce que c'est lié, par exemple, au sport, par exemple, au football, quand quelqu'un est décisif? Et c'est, je suis sûr que c'est un lien au sport avec le football,
pas
par exemple.
Du tout.
Ah, c'est crucial.
Est-ce que c'est quoi, quelqu'un crucial?
Crucial. C'est une excellente réponse. De Marcella Yacoub.
Ah oui.
Bravo Marcella.
Oui, un moment crucial, décisif, c'est un carrefour dans nos vies, ouais.
Et crucial, ça veut dire en forme de croix.
Mais oui.
Ça, on l'ignore parfois, parce qu'on utilise le mot crucial effectivement pour quelque chose de décisif, quelque chose qui permet de conclure un moment crucial. Mais le premier sens du mot crucial, c'est bien en forme de croix.
Mais oui, on dit crucifix.
Oui, bah c'est trop tard vous maintenant. Mais en tout cas, ça prouve que Marcella Yacoub est une vraie grosse tête et qu'elle est cruciale.
Oui,
pour cette émission. Alors, tiens, voilà, j'en ai une plutôt pour vous, Dari Boudboul, à l'attention de Cyril Roudeau, qui habite Saint-Georges-sur-Léon, dans le Maine-et-Loire. Comment appelle-t-on la petite planche à repasser? Comment appelle-t-on?
Je sais, parce qu'une Jeannette.
Eh ben, bravo, c'est une Jeannette. Vous voyez?
Évidemment, une bonne ménagère, hein,
oui,
que je suis.
Oui.
Bonne petite mère. Alors avant, je disais moins de 50 ans, maintenant c'est moins de 70. Mais voilà, elle sait ce que c'est qu'une Jeannette.
Mais alors moi, je vois pas bien ce que c'est la Jeannette par rapport aux autres planches.
Mais si, c'est de minimatique.
Moi, je vais vous dire, elle permet de rentrer la manche de la chemise dans la Jeannette.
Ouais. C'est pour
et
éviter...
une fois qu'elle est rentrée, on fait un côté et après on fait l'autre côté.
Et c'est pour éviter le pli.
Exactement.
Sur la manche.
Ah oui.
Parce que c'est mal vu de me faire un pli sur la manche du lâche.
Mal vu par qui?
Parce qu'il y a des modes.
En tout cas, c'est bien une Jeannette. Bravo, je vois que vous êtes froissé, monsieur.
Ah, mais vous m'avez empêché de me dire pour que ça
bah,
soit...
Parce que je vous laissais la bonne réponse.
Ouais, voilà.
Vous pouvez de temps en temps quand même laisser une réponse à quelqu'un, surtout sur une Jeannette. C'est pas un exploit de répondre Jeannette, vous voyez.
Non, mais...
Comment ça, c'est pas un exploit?
Vous venez de briller avec Gilbert Cesbron, vous pouvez laisser la Jeannette à Dari Boudboul.
Bah, quand vous avez dit stop, je l'ai laissé, du coup.
Encore une question de vocabulaire, et après on passera à autre chose. Mais c'est pour Julien Vessière, qui habite Saint-Nectaire, dans le Puy-de-Dôme.
Putain, c'est le fromage.
Qu'est-ce qu'il y a?
Non, rien, Saint-Nectaire, c'est le fromage.
Alors écoutez, vos petites remarques, Mme Bédia.
Pardonnez-moi.
Donc, vous êtes comme âge, vous aimez le fromage.
Oui, voilà. J'adore.
Ah, c'est fou, ça.
C'est très intégré.
Cette génération. Mais c'est vrai, j'ai remarqué, il y a une génération comme vous qui aime le fromage.
Pourquoi? Oui, enfin, c'est juste les gros. Hein, franchement. Je pense que ce soit une génération.
En tout cas, je vais vous demander maintenant ce qui peut être à la fois un carrefour et au coin de l'œil.
Une poussière.
Une poussière.
Il y a des poussières dans les carrefours. Ah oui,
et une poussière, c'est un carrefour.
Non, une alarme. L'alarme à l'œil.
L'alarme à l'œil, c'est joli, mais c'est pas un carrefour.
Voyez. Un Loriot.
Un Loriot, pas du tout.
Un gilet jaune.
Un gilet jaune, non. Qu'est-ce qui est à la fois un carrefour et au coin de l'œil?
En fait, je comprends le principe. Depuis plusieurs émissions, il faut absolument faire des mots croisés ici.
Ah oui. Si vous pouviez en faire et vous taire en même temps.
Parce que ça fait très définition de mots croisés.
Ben oui, mais là, effectivement, c'est une subtilité, c'est un peu comme crucial.
Oui, mais moi, je fais du sudoku, je peux pas tout faire.
Mais on l'utilise davantage pour le coin de l'œil ou pour le carrefour?
Alors, on voit ça au coin de l'œil et on voit ça au carrefour aussi. C'est d'ailleurs une forme de carrefour, mais un carrefour bien spécifique. Et on peut voir ça aussi au coin de l'œil.
La cataracte?
La cataracte, non.
Est-ce que c'est une forme géométrique?
Vous, par exemple, vous n'en avez pas, monsieur.
Ah.
Non. Monsieur Bigard commence à en avoir, vous voyez.
Des cernes?
Mais non.
Qu'est-ce qu'il a? Jean-Marie, regarde-nous. Qu'est-ce que t'as, Jean-Marie?
Qu'est-ce que je commence à avoir?
Des poches?
J'ai de moins en moins le bite dur. Ça, c'est sûr.
Non, monsieur
Bigard. Je vois
Bigard.
Ce que j'ai en moins, mais...
Mais même moi, évidemment, et vous aussi, au coin de l'œil.
Des rides du lion?
Des rides? Des rides?
Des rides du lion?
Des rides du lion?
Non, mais on se rapproche.
Des rides du...
C'est les rides d'un animal, rides.
Les pattes de doigts.
Les pattes de doigts. Mais oui.
Bonne réponse de Paul Alcarat.
Bravo.
Eh oui.
Ah oui, par exemple, il y a la patte de doigt d'Herblay.
Ah, vous connaissez?
Ben oui.
Effectivement.
Mais c'est un carrefour, la patte de doigt.
Oui.
C'est un carrefour où une route principale se divise en plusieurs voies divergentes. Ça s'appelle une patte d'oie.
Mais ça s'appelle un rond-point.
Oh non, enfin écoutez.
Non, ça c'est.
Comme des petites rides en éventail qui se trouvent à l'angle externe de l'œil. La patte d'oie, c'est une vraie réponse de Paul Elkarat qu'on peut applaudir.
Bravo, mon Polo.
Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout
le tout nouveau titre de Santa après l'immense succès de Popcorn Salé. Elle sortira son premier album au mois de mai. Il s'appellera C'est la vie.
RTL,
15h30, 18h.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Eh oui, et issu de la pêche durable. Hein.
Ça peut plus durer.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot.
Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite, oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer, oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, avec AG2R La Mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
C'était le 1er mai 1994, le monde de la F1 était sous le choc. Ce soir, dans Jour J, Flavie Flamand revient sur la mort en direct d'Ayrton Senna, une émission entièrement consacrée au prince des circuits. Jour J, c'est à partir de 20h sur RTL.
RTL,
les grosses têtes répondent aux auditeurs.
Roberto est au téléphone, bonjour Roberto.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Faites partie des auditeurs qui avaient grossi le nombre de notre audience, j'espère. Vous nous écoutez depuis longtemps ?
Ah, depuis le début du Covid.
Ah oui, mais vous êtes guéri depuis.
Tout à fait.
Vous me rassurez. Ce que vous allez dire, c'est que vous nous avez découvert pendant le confinement, quoi. C'est ça, en gros.
Au début du Covid.
Ah,
parce que j'avais
c'est
le
ça. Non. Et alors, quel est votre préféré ? Parce que je vois, vous me dites, il y a une ombre au tableau dans votre émission. C'est pas Marcella, j'espère.
Non, je l'adore.
Ah.
J'adore Marcella.
Ah.
Parce que... Mais vous aimez quoi chez Marcella ?
Mais arrête !
Sa méchanceté !
Ta gueule !
Sa méchanceté,
voilà, c'est ça que j'aime.
Voilà, c'est
ça que
j'aime.
C'est ça que j'adore.
Vous aimez bien les gens qui balancent, en fait, hein, Roberto.
Ouais, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, mais qui sont francs.
Eh ben voilà. Eh ben, c'est quoi ?
Eh ben, moi aussi, je vous aime bien.
Ouais, moi aussi, je vous aime bien.
D'ailleurs, on vous a pas encore demandé une petite histoire, Jean-Marie.
Ah bah non, c'est vraiment dommage.
Alors, allez-y.
Eh bien,
pour
le mec,
Roberto.
C'est un gars qui sort de chez lui. Pas loin de chez lui, il y a le comment on appelle ça, le truc où on lave le linge, là.
C'est moi qui pose la question.
L'endroit en pierre où il y a un ruisseau qui coule.
Un lavoir, voilà. Heureusement que je suis là. Hein.
Voilà, donc au lavoir, là, il reconnaît sa femme qui est là au lavoir parce qu'elle est toujours habillée, pour lui, beaucoup trop courte. Hein. Il reconnaît à la moitié du cul à l'air parce qu'elle est penchée comme ça et elle tape le linge sur le truc. Le battoir, le savon, à la...
Oula.
Toutes les mains occupées, quoi. Et il se dit, tiens, je vais arriver derrière elle pendant qu'elle bat le linge et tout le bordel. Et il lui retrousse la jupe et il défouraille son engin. Là, il arrive, donc il la prend. Et à la fin, il lui met une grande claque sur les fesses. Et là, sa femme, elle se retourne, elle voit son mari, elle dit, ah, c'est toi, tu m'as fait peur.
J'ai pas compris.
Mais c'est clair, franchement.
Là, Roberto...
Là, tu te fais arrêter par les journalistes de Mediapart, de Elle...
Oui, je voulais lui dire, est-ce qu'il connaît Mediapart?
C'est pas vraiment une blague Me Too, mais elle date de l'époque des lavoirs, Roberto.
Bien sûr.
On vous embrasse, on vous envoie une montre RTL, Roberto. Thierry, maintenant. Bonjour, Thierry.
Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes.
Alors, Thierry, lui, veut défendre Johan Rioux. Il dit que c'est un scandale, toutes les moqueries dont fait l'objet Johan.
C'est vrai.
C'est bien ça ?
Ah, exactement, oui, ça me fait mal à force.
Mais c'est de l'amusement.
Mais le premier à le faire, c'est lui.
Mais c'est parce qu'il est chauve.
Et que je suis gros.
Ben, c'est pour ça que au début, ça me faisait rire, mais bon, je m'aperçois qu'en fait, vous moquez de lui en permanence.
Ouais, oh. C'est pas bien.
Oh. Mais non, mais c'est vraiment. On est là pour rigoler, on est là pour avoir
mais
de l'autodérision.
Il aime ça, vous savez, monsieur. Il aime ça.
Vous avez vous avez même décidé de fonder le CSYR.
Le CIR, oui.
Le CIR, Comité de soutien à Johan Rioux.
Exactement.
Dont vous serez président à vie et pour l'instant le seul membre actif.
Oui, exactement.
Contrairement au sien.
Voilà, c'est ça.
Et alors, vous me dites que ce qui vous a amusé l'autre jour, c'est quand il a expliqué qu'il allait faire de la pub, une campagne de publicité pour les couches Pampers.
C'est vrai. Et ça y est, on a tourné, ça y est, c'est fait. Mais énorme campagne radio.
Il est uniquement doublure fesse.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais tu portes
et tu sais, Laurent, qu'on m'a proposé une pub.
Ah oui.
Qui s'appelle Beaucu. Et c'est des toilettes chinoises, si tu veux, tu les installes chez toi et tu te mets un petit jet d'eau qui vient t'asperger le pion.
Ah oui, c'est très bien.
C'est japonais, je crois, plutôt que chinois, non?
C'est japonais. Mais on m'a fait confiance à moi, spécialiste du fion, quoi, tu vois. Et non, mais je suis assez flatté parce que...
Oh ben, il y a quoi?
J'ai le... Non, je vais participer à l'écriture de la pub, donc tu vois, je vais me régaler, quoi.
La prochaine fois, jumelez tous les deux vos publicités, hein, Ryu et Bigard. Rien à ajouter, Thierry, à propos de Yoann Ryu?
Bah, je pense que c'est vrai qu'il a l'air de s'amuser, mais je pense qu'il comprend pas exactement ce qui se passe autour de lui.
Avec des amis comme vous, alors. Laurence, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Laurence.
Bonjour, les grosses têtes.
Ah, vous dites que vous nous écoutez depuis au moins 45 ans. Ah, là, ça fait beaucoup, dites donc.
Ah, c'est bien,
ouais,
ça.
Ouais.
Ça veut dire...
40, 45 ans.
Oh, ouais, on n'est pas à 10 ans près. Hein. De toute façon, ce sera les 50 ans, là, dans 3 ans, hein, vous le savez.
Ouais, c'est ça.
On fêtera nos 50 ans ensemble. Mais moi, je n'étais pas là au départ. Vous avez commencé avec Philippe Bouvard. Et depuis 10 ans, vous continuez à nous écouter, alors.
Oui, tout à fait. Sur la route du travail.
Qu'est-ce que vous faites
quand je reviens.
Quand vous revenez. Très bien, Laurence.
Et
vous revenez de quel travail, par exemple, Laurence?
Dans l'enseignement.
Ah, vous êtes professeur. Des écoles ou institutrice ou,
Des écoles,
Des écoles, institutrice. Donc, très bien, Laurence. Il y a quelqu'un qui n'a pas sa place dans l'émission. Dites-vous.
Yoann Ryu.
Oh, c'est bonjour. Pourquoi, madame? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne vous va pas?
Je ne sais pas. Il y a quelque chose un petit peu énervant, je dirais, dans la voix, dans le rire.
Vous avez un accent chelou, vous aussi, non?
Non, mais la xénophobe, c'est fou.
Je suis belge. Voilà.
Normalement, quand on est belge, on aime bien les extravagants comme lui.
Vous avez vous avez un très bel accent belge, je vous jure.
Non, mais moi, je vous comprends parce que moi, je ne supporte pas nos parce qu'elle a raison, putain.
Alors, continuez à nous écouter sur Bel RTL, mais c'est comme ça, je veux dire que Yoann suscite le débat. La preuve, Sophie, maintenant. Bonjour, Sophie.
Bonjour Laurent Ruquier, bonjour les grosses têtes.
Bonjour Sophie.
Vous, à l'inverse de, je dois dire, l'auditrice précédente, vous soutenez Yoann contre les autres grosses têtes qui sont trop dures, dites-vous, avec lui. Hein. C'est bien ça?
Moi, je trouve que Yoann Ryu est attachant. Il est plus attachant que chiant, finalement.
Ah, c'est beau, madame.
J'aime Yoann Ryu, voilà.
Oh, bah écoutez, c'est tellement gentil. On va noter votre adresse.
Attachant.
Merci.
Non,
beaucoup.
Il ne veut pas l'épouser. Je ne veux pas être
attachant. C'est gentil, Sophie. Vous écoutez RTL et les grosses têtes depuis combien de temps?
Depuis très longtemps. J'ai rencontré Paul Elkarat l'année dernière à la Forêt des Livres de Gonzac-Saint-Brice Touraine. J'ai fait de la voiture avec lui, de la petite voiture électrique. J'ai adoré ce type, il est génial.
La petite voiture.
Vous faites des là, on l'a perdu, là.
Et je regrette qu'il ne m'a pas fait le coup de la panne.
Ah, un MeToo dans un manège, dites donc. Vous avez un ticket, Paul. Vous avez un ticket avec cette dame.
Et c'est quoi votre prénom?
Oui, nous avons... Sophie. Je suis Sophie. Sophie, nous avons fait de la voiture électrique à la Forêt des Livres pour aller déjeuner.
Ah, d'accord.
Ah oui, vous vous souvenez,
nous avons... Il t'a fait l'amour, il y avait juste le plafonnier qui était allumé. Et après, vous lui avez dit, t'es un amant extraordinaire, et il t'a dit non, là, c'était le levier de vitesse. C'était pas moi.
Il a plus de délicatesse que ça.
On vous embrasse, Sophie, et on termine avec Jules. Bonjour, Jules.
Bonjour.
Alors, vous avez appris, il n'y a pas si longtemps, que Bernard Mabie faisait parfois des spectacles privés pour des anniversaires. C'est vrai, il nous l'a dit, d'ailleurs, il était à l'anniversaire de Mick Jagger. Et puisque Bernard Mabie fait des spectacles privés pour des anniversaires, vous seriez intéressé, vous?
Bah alors, moi, j'aimerais savoir si Marcella Yacoub faisait aussi ce genre de prestations.
Oula.
En fait, ce serait pour animer le mariage de mon ex.
Combien vous me payez, monsieur?
Pour gâcher la fête.
Pour donner son avis sur la robe de la mariée, ou parler un peu du repas, enfin des choses comme ça.
Ah, vous voulez qu'elle mette une bonne ambiance dans le mariage de votre ex, alors?
Qu'elle vienne pourrir la soirée.
Humeur, sa bienveillance, tout ça, quoi.
Je crois que monsieur vous a bien repéré, Marcella. Mais vous avez vraiment une ex qui va se remarier, Jules?
Non.
C'est juste pour l'humour, vous méritez donc d'être un auditeur des grosses têtes. On vous embrasse, on vous envoie une montre RTL et on se retrouve après les infos de 16h.
15h30, 18h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez le ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
À tous ceux qui, quand on leur demande « je te resserre ?», répondent « oh non, merci, là je peux plus rien avaler ». À ceux qui disent « oh non, 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 pas de fromage non plus, là c'est… » Et aux mêmes qui vont quand même se jeter sur la dernière danette. Oui, donc ça passe quand ça t'arrange en fait. Hein ? Chez Intermarché, pour l'achat de deux packs de crème dessert à la vanille danette à 1,46€ l'unité, le troisième est offert. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, 3 fois 500 grammes, soit 1,95€ le kilo au lot, transformé en France. Autre saveur disponible, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Ça s'est passé sur RTL.
Christelle, êtes-vous surendettée?
Oui, j'ai 47 000 euros de dette. Je vais être expulsée de ma maison. J'attends la décision du juge pour savoir quand.
Lucien, bonjour, mon cher Lucien.
Bonjour. Le cas de Christelle ne peut qu'émouvoir et je